Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Gras Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Fanny Richet, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean-Guilain Meige. La Chine vient-elle de franchir un cap à la faveur du sommet de l'APEC, le Forum économique Asie-Pacifique, qui se tenait à Pékin la semaine dernière? Rarement en tout cas, on avait vu les dirigeants chinois prendre autant d'initiatives, comme si la deuxième puissance économique mondiale avait décidé d'endosser une partie des responsabilités que lui confère son rang. De ces 48 heures de rencontres, on retiendra surtout le lancement d'un projet chinois de zone de libre-échange asiatique sans les États-Unis, une réponse directe au projet américain de zone de libre-échange transpacifique, lequel n'avait pas prévu d'intégrer la Chine. De quoi donner une idée des tensions qui persistent entre les deux grandes puissances mondiales. Sauf que ce sont les deux mêmes qui, à Pékin toujours, ont décidé de conclure un accord sur le climat. Les principaux pollueurs de la planète s'engagent de concert, mais selon des modalités et un calendrier différent, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour l'occasion, la capitale chinoise avait même été privée de circulation automobile et de travaux, histoire de rendre l'air, pour une fois, respirable. Alors à cela, on pourrait encore ajouter la volonté d'apaisement manifestée à l'égard de ses voisins, le Japon notamment, alors que Pékin et Tokyo sont en conflit sur des questions territoriales. Mais le président chinois Xi Jinping l'a promis tout à l'heure devant le Parlement australien, son pays n'usera jamais de la force pour parvenir à ses fins. Il suffit, a-t-il dit, de regarder l'histoire pour voir que les pays qui ont tenté de se développer par la force ont invariablement échoué. Alors faut-il voir dans cette série d'initiatives les gestes d'une puissance arrivée à maturité ? La Chine est-elle décidée à assumer son leadership ? C'est notre sujet du jour. Et trois chercheurs spécialistes de la Chine pour en discuter. Valérie Niquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de recherche responsable du pôle Asie pour la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Avec vous ce soir, Jean-Luc Domenac, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CERI, le Centre d'études et de recherche internationales. On vous doit chez Fayard en 2012, Mao, sa cour et ses complots derrière les murs rouges. Et puis notre troisième invité se trouve au téléphone depuis Shanghai, en Chine. Donc il s'agit d'Alice Ekman. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est un mot qui convient particulièrement ce soir pour vous présenter, puisqu'il fait plus que nuit noire là où vous êtes. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, Institut français des relations internationales, chargée de cours sur la Chine contemporaine à Sciences Po, Paris et Lille. J'imagine que vous êtes à Shanghai dans le cadre de vos recherches, Alice Ekman.
Oui, en effet, dans le cadre de terrains de recherche et d'échanges avec les institutions de recherche et les think tanks chinois pour essayer un peu de comprendre la perception chinoise de certains enjeux internationaux dans la région et au-delà.
Est-ce qu'à Shanghai, aujourd'hui, on parle encore beaucoup de ce qui s'est passé à Pékin il y a quelques jours lors du sommet de l'APEC ?
Oui, on en parle beaucoup et c'est exactement les mêmes questions, toujours les mêmes questions qui se posent. La Chine est-elle décidée aujourd'hui à assumer ses responsabilités à l'échelle de la région, mais aussi à l'échelle du monde. Quelle position va prendre la Chine sur des enjeux, par exemple, tels que les enjeux climatiques ou les enjeux de cybersécurité? Est-ce qu'on a aussi, sous Xi Jinping, un changement d'orientation de la politique étrangère chinoise? Parce qu'aujourd'hui, le dirigeant chinois est au pouvoir depuis 2 ans. Et c'est vrai qu'on a vu une accélération d'initiatives chinoises, principalement à l'échelle de la région, concernant les différents territoriaux en mer de Chine orientale et méridionale, et aussi de nouvelles déclarations, de nouveaux positionnements, une restructuration institutionnelle, par exemple la création d'un Conseil national de sécurité, ou une restructuration des agences maritimes dans la région. Alors, on est vraiment dans une phase de transition. Il y a encore assez tôt pour analyser et tirer des conclusions générales sur les nouvelles orientations. Mais c'est sûr qu'il y a une accélération des initiatives de la politique étrangère chinoise à l'échelle de la région, mais pas encore au niveau international, par exemple sur certaines crises comme l'Ukraine ou même auparavant la crise syrienne qui est encore aujourd'hui. Il est difficile vraiment d'identifier avec précision la position chinoise sur ces crises.
Alors vous nous avez fait un beau sommaire, Alice Ekman. Taïwan. Hein. Alors, on va essayer de détailler un petit peu parce qu'on ne va pas tout traiter en une seule fois. Mais déjà, alors vous avez raison de dire qu'il ne faut surtout pas tirer de conclusions définitives, mais on peut peut-être quand même tirer quelques conclusions au moins provisoires. Jean-Luc Domenac, Alice Eggman disait finalement, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu toujours avec les mêmes questions. Est-ce qu'au moins le sommet de l'APEC de la semaine dernière donc, a permis de répondre à certaines d'entre elles, notamment sur le fait que Pékin serait peut-être aujourd'hui décidé à assumer les responsabilités qui sont liées à son rang, c'est-à-dire deuxième puissance économique mondiale, en tout cas une superpuissance.
Ce qui est sûr, le progrès qui est absolument certain, c'est dans la capacité de faire croire aux autres ce qu'on veut qu'ils croient. Ça s'appelle de la publicité ou de la propagande, et là, il est très fort, et... moi, j'aime bien les problèmes, disons, qui mettent en contact la politique intérieure et la politique extérieure. Cela est l'effet, disons, d'une situation politique tout à fait intéressante, tout à fait forte, disons, de ce personnage qui est bien meilleur que prévu, qui se débrouille bien pour lutter contre la corruption.
Le personnage, c'est le président chinois.
Oui, c'est le président chinois, Xi Jinping, qui est le fils d'une espèce de petit Mao. Hein, c'est quelque chose d'important dans la légende. Dans la légende chinoise, et je crois qu'il sait vraiment présenter les choses d'une part, et d'autre part, il sait faire croire que par exemple, il est maintenant dans un dialogue unique avec les États-Unis. C'est ça sa fascination. Pour le reste, je laisserai ma collègue ici expliquer tout la part du barat, hein, notamment en ce qui concerne les engagements que la Chine aurait pris prétendument.
Sur la façon dont se présente Xi Jinping, Valérie Niquet, ce que vous diriez comme Jean-Luc Domenac, finalement, il s'est peut-être montré plus puissant devant les médias qu'il ne l'est réellement.
Alors, de toute manière, il est très puissant en Chine et on dit beaucoup qu'il serait sans doute l'un des dirigeants chinois qui a le plus de pouvoir aujourd'hui depuis Deng Xiaoping. Il semble qu'il ait fait pas mal le ménage, notamment au travers de la lutte contre la corruption autour de lui et qu'il domine véritablement le comité permanent du bureau politique du Parti communiste qui continue à tenir en fait les rênes du pays. Donc, on n'est pas du tout dans un régime qui a fondamentalement évolué et c'est un point important à garder à l'esprit.
Il est puissant en Chine, mais il n'est pas forcément considéré comme puissant à l'extérieur. Autant la Chine, oui, c'est un pays puissant, autant son principal dirigeant n'incarne peut-être pas encore complètement ce pays. Est-ce que l'opération APEC avait pour but notamment de l'installer lui aussi comme un homme fort de la planète.
Alors, en termes d'image, c'est lui, je ne sais pas si c'est lui tellement que l'idée autour de ce sommet de l'APEC, c'était quand même aussi d'installer la Chine, ou le système politique chinois, comme un succès. C'est ce qu'il fallait montrer, c'est le succès et d'un régime chinois censément porteur d'avenir. Donc, il y a un discours qui est à destination de la population chinoise. Il faut montrer aux Chinois, regardez comme nous sommes puissants, la terre entière nous admire, et montrer au monde qu'on ne peut rien faire sans la Chine, puisque la Chine est l'avenir du monde, que ce soit au niveau économique ou même en termes de nouvelles normes que la Chine voudrait imposer.
Et de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi, justement ?
C'est plutôt réussi, manifestement. On a beaucoup repris cette thématique-là. Mais peut-être, moi, ce que je verrais dans l'APEC et le sommet qui s'est tenu au G20 ensuite en Australie, c'est peut-être l'amorce d'un tournant, justement, dans la stratégie extérieure de la Chine qui a été particulièrement négative et avec des résultats peu concluants depuis la fin des années 2000. Au moment de la crise financière, on a tellement dit aux Chinois qu'ils s'en étaient sortis beaucoup mieux que tout le monde, qu'ils y ont vraiment cru et qu'ils ont commencé à avoir une stratégie beaucoup plus agressive, notamment dans leur région, voilà, à tenter d'imposer leurs propres normes avec des résultats très négatifs, y compris pour la Chine elle-même. Ils se sont mis à dos toute la zone du Japon, mais également le Vietnam, les Philippines, les États-Unis qui sont retournés en Asie. Donc tout ça était très négatif pour les intérêts chinois. Peut-être commence-t-on à voir l'amorce de la réalisation en Chine que finalement cette stratégie n'était pas la bonne et qu'au contraire, il vaut mieux tendre la main pour plus de succès.
Jean-Luc Domenac, les Chinois se rendent compte qu'ils sont peut-être allés trop loin ?
Je trouve que dans les écoles de diplomatie, on pourrait présenter comme un exemple de diplomatie stupide la diplomatie que la Chine mène en direction de ses voisins depuis la fin des années 2000, comme l'a dit ma collègue. Et de ce point de vue-là, les discussions avec les Japonais, Madame Ekman, qui est à Shanghai, connaît très bien tout ça, les discussions avec les Japonais sont véritablement un progrès. Quand même, c'est quand même invraisemblable. Prenez le cas des relations entre la Chine et le Vietnam. Voilà des pays qui se connaissent depuis toujours. Ils ont eu du bon et du mauvais l'un avec l'autre. Mais enfin, la Chine a beaucoup aidé le Vietnam. Ils la connaissent bien. Pourquoi ils font ces stupidités-là? Maintenant, c'est la flotte américaine circule dans les ports vietnamiens. Vous rendez compte quand même?
Alice Ekman, je ne sais pas si vous partagerez un jugement aussi sévère que celui de Jean-Luc Domenac sur la diplomatie et la politique étrangère de la Chine de ces dernières années. Mais si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, peut-être, cette diplomatie arrive à un certain état de maturité? C'est-à-dire qu'on finit aussi, après d'avoir tâtonné un petit peu, à savoir comment jouer de sa puissance?
Ce qui est certain, c'est que la Chine a pris conscience que... ses positions fermes en mer de Chine orientale et méridionale récemment, puisque par exemple en novembre 2013, elle a décrété une zone d'identification de défense aérienne au-dessus de la mer de Chine orientale. Ensuite, plus récemment, en mai 2014, la Chine a installé une plateforme pétrolière en mer de Chine méridionale dans des eaux que le Vietnam considère comme partie intégrante de sa zone économique exclusive. Tous ces mouvements fermes ont été contre-productifs pour les intérêts chinois dans la région, pour la stratégie chinoise dans la région, s'il y en a une, puisque ces pays ont finalement accueilli avec les pays voisins de la Chine ont accueilli finalement avec plus de bienveillance le pivot américain dans la région, compte tenu des doutes qui planent sur les ambitions réelles de la Chine dans la région. Donc la Chine en est consciente aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu vraiment aussi des erreurs de communication majeures de la Chine et aussi une sous-évaluation de la guerre de communication qui fait rage en Asie et au-delà. Ensuite, pour revenir sur la relation Chine-Japon, c'est vrai que compte tenu de la forte interdépendance économique entre les deux pays, compte tenu également du haut risque de collision en mer et dans les airs autour des îles Ryūsenkaku qui existaient depuis septembre 2012, et surtout pour une raison plus prosaïque, compte tenu du fait que Pékin était hôte du sommet de la PEC, il était difficile pour Xi Jinping de ne pas serrer la main du Premier ministre Abe ni de le recevoir. Donc il y a eu une rencontre. Cette rencontre est une image forte pour ce sommet, une rencontre qui a été largement couverte par les médias internationaux surtout. Cependant, c'est vrai que la rencontre entre Xi et Abe est importante, mais elle marque un premier pas vers le dégel des relations. Mais il ne faut pas la surestimer. Il s'agit d'un dégel partiel. Une avancée positive, c'est que l'idée d'un mécanisme de communication maritime a été évoquée notamment entre les deux pays pour éviter les risques d'escalade des tensions en mer de Chine orientale. Donc ça, c'est un développement encourageant. Ceci dit, pendant la rencontre, Xi Jinping est resté quand même assez froid lui-même. Il en a profité également pour mettre en garde les dirigeants japonais concernant les questions liées à ce qu'il appelle le révisionnisme historique. Et globalement, la portée elle-même de la rencontre a été minimisée par les médias officiels chinois eux-mêmes.
Valérie Niquet, vous êtes d'accord avec ce que dit Alice Ekman? Il ne faut pas surestimer cette poignée de main entre le président chinois et le premier ministre japonais?
Oui, alors d'autant plus que Pékin aurait voulu en fait qu'à l'occasion de cette rencontre, le Japon reconnaisse qu'il y a un différend sur la question des îlots. Donc la Chine et le Japon ne sont pas d'accord sur cette question-là, ce que le Japon a refusé de faire. Le Japon a simplement considéré qu'il y avait une interprétation différente sur la raison pour laquelle il y avait des tensions. On est en Asie, hein, donc des formules un peu alambiquées. Donc en fait, les Chinois n'ont pas obtenu ça. Et alors, on parlait d'interdépendance économique entre la Chine et le Japon. C'est tout à fait vrai. Les milieux d'affaires au Japon sont intéressés à poursuivre des liens étroits avec la Chine. Mais pour Pékin, ce qui est très important aussi, c'est que les investissements japonais en Chine, la Chine continue d'avoir besoin d'investissements extérieurs et de transferts de technologies, bien qu'elle soit une très grande puissance, ont baissé de plus de 50% au cours des premiers mois de l'année 2014. Et donc, là encore, ça fait partie de cette prise de conscience sans doute en Chine du fait que cette stratégie agressive, y compris contre Tokyo, avait des résultats très négatifs dans un secteur économique qui ne va pas si bien que ça en Chine aujourd'hui. aujourd'hui. Il faut bien voir que la croissance qui était autour de 14% en 2008 est à 7 et quelques aujourd'hui. Et la Chine a besoin d'une forte croissance.
Alors, il y a un autre pays avec lequel il y a une très forte interdépendance. Ce n'est pas le Japon, mais ce sont les États-Unis, Jean-Luc Domenac. Oui. Alors, il y a eu un certain nombre, là aussi, d'initiatives lors de ce sommet de l'APEC qui paraissent, a priori, assez contradictoires. Il y a déjà donc l'annonce de la réflexion sur un projet d'une zone de libre-échange asiatique, dont on voit bien que c'est un projet directement concurrent de la zone de libre-échange transpacifique voulue par les États-Unis, qui pour l'instant exclut la Chine. Donc ça, on peut dire que c'est presque une mesure un peu agressive, en tout cas à l'égard de Washington. Et puis de l'autre côté, il y a cet accord commun sur le climat où les États-Unis disent bah voilà, nous on va baisser d'un quart nos émissions de gaz à effet de serre, et où la Chine dit à partir de 2030, on atteindra le pic et on commencera également à baisser nos émissions. C'est un accord conjoint. Donc est-ce que les États-Unis et la Chine sont alliés? Est-ce qu'ils sont rivaux? On a du mal à comprendre finalement quelle est la nature de leur relation.
Point 1, la situation est quand même complexe. Hein. Ils sont effectivement, non pas alliés, mais il y a des rapports convenables, mais ils sont inévitablement rivaux, surtout dans des circonstances où les erreurs techniques et tactiques de la Chine dans la région ont ouvert des avenues véritablement à l'influence américaine.
Parce qu'il y a certains pays qui se sentaient menacés, qui sont retournés du côté des États-Unis.
Absolument. Les États-Unis, maintenant, ils jouent facilement. Ils ont tout le monde est revenu vers eux, les Japonais, sauf les Sud-Coréens, mais tout le monde, et même les relations entre la Chine et la Corée du Nord sont au pire. Alors, je dirais que c'est avec les États-Unis qu'il y a, du point de vue de la Chine, le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est quand même ce que Obama, dans les attentions qu'il a pour la Chine, pour ses diplomates, pour son président, tout ce qu'il accorde un petit peu, qui est très important pour le public chinois, c'est des satisfactions de face. Sur le fond des choses, je crois qu'il y a véritablement, les Américains ne lâchent rien, d'autant qu'ils ont ils sont dans une position très favorable, tout le monde se retourne vers eux. Donc finalement, je crois qu'il serait vraiment trop tôt, il est trop tôt aujourd'hui pour conclure à une victoire chinoise. Quand même, Xi Jinping a gagné ce qui conjoncturellement est le plus important pour lui, c'est qu'on lui fasse de la politesse, qu'on lui fait des gentillesses, on lui fait des chatteries. C'est pas un quasi-empereur, ça fait plaisir, c'est presque déjà l'essentiel.
Est-ce qu'on peut y voir, Valérie Niquet, la volonté au moins pour la Chine, si ce n'est de prendre le pas, enfin de prendre le dessus sur les États-Unis, d'être traité comme un partenaire d'égal à égal? Quand on voit que cet accord sur le climat, c'est un accord à deux, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, on va voir se multiplier des accords bilatéraux, c'est-à-dire entre les deux plus grandes puissances mondiales?
Alors, la thématique à la mode aujourd'hui en Chine, c'est les nouvelles relations entre grandes puissances, ce qui signifie très directement la Chine et les États-Unis, accessoirement la Russie, mais on voit bien que Moscou pèse d'un poids bien moindre. Et ce qui est important pour la Chine, mais ça n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. L'idéal du régime chinois, ce serait évidemment d'être adoubé par la première puissance économique et stratégique de la planète, comme la deuxième grande puissance, c'est-à-dire la Chine prendrait la place qu'occupait auparavant l'URSS et serait universellement reconnue comme le deuxième grand, sans discussion possible, avec des conséquences très directes, et on en revient aux enjeux régionaux, qui serait que dans sa zone, en fait, on aurait une Asie sino-centrée, acceptée, avec une domination chinoise plus ou moins douce. Et donc c'est là que se situe vraiment l'ambition du régime chinois, et pour des réseaux qui sont évidemment de prestige extérieur, mais aussi de légitimité interne, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que si le président Xi Jinping serre la main d'Obama et est accueilli comme le deuxième grand par Obama, il y a un côté très prestigieux dont il peut jouer pour l'élément essentiel qui reste, qui est celui de comment conserver le pouvoir pour un régime très obsolète.
Quand vous dites, Valérie Niquet, qu'on pourrait se retrouver avec une situation assez proche finalement de celle qui était le partage du monde au temps de la guerre froide, entre les États-Unis et l'URSS. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que pour les Chinois, on serait aussi là dans l'idée de se partager des zones d'influence, certaines revenant aux États-Unis, d'autres à la Chine?
Alors, je ne dis pas que ça se fera. Je ne crois pas d'ailleurs que ça se fera. Mais c'est l'ambition de la Chine, elle est là. Et le partage des zones d'influence, c'est déjà en Asie, quand Xi Jinping déclare à plusieurs reprises, écoutez, le Pacifique est assez grand pour deux, à vous le Pacifique oriental, si je ne me trompe pas, et à nous le Pacifique occidental, et comme ça les choses iront très bien dans ce partage du monde entre les deux grands. Mais je ne suis pas du tout persuadée, et même je pense le contraire, que ce scénario idéal pour la Chine sera celui qui sera mis en place.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
La Chine est-elle décidée à assumer son leadership? C'est le thème de notre discussion ce soir sur France Culture dans le grain à moudre avec Valérie Niquet, Jean-Luc Domenac et Alice Ekman qui se trouve à Shanghai. Alice Ekman, pour rester un instant sur cette relation particulière dont rêvent les Chinois à l'égard des États-Unis. Je dis dont rêvent, j'emploie ce terme à dessein, puisque Xi Jinping avait justement parlé d'un rêve chinois qui forcément, là aussi, fait penser au rêve américain. Est-ce qu'on a aussi en Chine l'idée de proposer un projet qui soit un projet alternatif à ce que proposent les États-Unis dans la région, voire sur l'ensemble du globe?
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a aujourd'hui un débat, une discussion sur la nature des relations développées entre la Chine et les États-Unis.
Une discussion où ça, vous voulez dire en interne, au sein du pouvoir chinois?
Oui, au sein des think tanks, au sein des centres de réflexion stratégique en Chine, au sein même du parti. Xi Jinping a lancé la notion, en effet, de nouveau type de relation avec les États-Unis. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on s'oriente davantage vers une rivalité tendue, sino-américaine, ou vers une compétition renforcée? Alors, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on note à l'échelle de la région Pacifique une compétition renforcée à plusieurs niveaux. Ça, c'est une volonté de compétition de la part de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Alors, il y a une rivalité qui est commerciale, avec la signature d'accords de libre-échange et avec également leur projet appelé projet de route de la soie. En fait, c'est un renforcement de la diplomatie économique chinoise à l'échelle de la région, notamment avec le développement de projets de construction d'infrastructures. Il y a aussi une rivalité monétaire avec une volonté de la Chine de renforcer l'influence du yuan en Asie par rapport au dollar. Il y a également une volonté de compétition institutionnelle avec Washington, avec une présence renforcée de la Chine dans certains forums et institutions régionales existantes, et également une volonté de créer, de redonner vie à certaines institutions auxquelles les États-Unis ne seraient pas associés, telles que par exemple la CICA. Donc c'était une conférence, une structure où participent une vingtaine de pays asiatiques, mais nous ne participent pas les États-Unis et le Japon. Et ce qui était intéressant, alors bien sûr, il faut bien rester modéré sur la portée et l'influence de cette institution, parce que c'est une institution de sécurité, mais aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup d'influence. Mais ce qui était intéressant lors de la quatrième édition de cette conférence qui avait lieu en mai 2004, Xi Jinping parlait de communauté de destin commun en Asie, et en soi-disant impliquant que les États-Unis ne seraient pas associés à cette communauté de destin commun. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, il y a une volonté de la part de Pékin de renforcer le statut de puissance régionale de la Chine. Par contre, la compétition est peut-être, en tout cas la rivalité peut être moins nette entre la Chine et les États-Unis au-delà de la région. Moi, ce qui me semble intéressant d'analyser suite au sommet de l'APEC, c'est qu'à mon avis, il y a un début de stabilisation progressive de la relation Chine-États-Unis. Parce que la relation était relativement instable depuis la rencontre entre le président Xi Jinping et Obama à Sunny Lands en juin 2013, lorsque justement la Chine avait martelé sa volonté d'établir un nouveau type de relation avec les États-Unis. Aujourd'hui, il semble que les deux puissances s'orientent désormais vers une compétition renforcée, mais tout de même encadrée, et notamment une compétition qui peut être marquée également par la signature d'accords dans différents domaines. Donc on a parlé de l'accord sur les climats. Il y a également eu un accord concernant les visas, un accord également concernant le lever des droits de douane sur une gamme de produits dans les technologies d'information. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition entre les États-Unis et la Chine sur d'autres sujets.
Alors justement, sur cette compétition Chine-États-Unis, Jean-Luc Domenac, On a parlé ces derniers jours du G20, il y a aussi le G8. Est-ce qu'on peut imaginer donc à l'avenir un G2 qui regrouperait Chine et États-Unis et qui serait un cadre pour éviter que cette compétition ne dégénère, puisque certains craignent aussi que cette compétition, pour l'instant économique, devienne une véritable compétition territoriale et donc militaire.
G2 peut-être, mais un petit peu agité, hein, parce que peut-être il y a un effort, il y a un moment là, il y a un moment un petit peu d'encadrement, ça je suis assez d'accord, ils essayent un petit peu de se parler poliment, etc. etc. Mais en fait, dans cette relation à deux, la Chine va être un partenaire assez irrégulier. Il y a des endroits où elle est brillante, hein, où ça marche bien, là où c'est pas difficile, c'est clair, dans les zones du tiers-monde, etc. Le Brésil, ils sont tous très contents qu'il y ait la Chine, etc. Bien. Il y a des domaines où elle est où elle est franchement difficile, un partenaire difficile pour les États-Unis et qui a des difficultés, c'est justement dans sa région, là où elle demande à être chef, c'est là qu'elle a les plus grandes difficultés. Et puis troisièmement, il y a des domaines où elle est encore faible, où elle ne pourra pas aller très très loin. Quand il s'agit de faire des promesses un petit peu creuses, comme par exemple sur le climat, ça ne coûte rien. Mais en revanche, quand il s'agit de contrôler les émissions de charbon, etc., etc., ça va devenir difficile. Donc elle a commencé par faire une chatterie aux Américains en disant « on va faire un effort », mais quand même, les zones charbonnières chinoises continuent à fonctionner à plein gaz.
Quand vous dites, Jean-Luc de Menac, qu'il y a des domaines sur lesquels elle reste encore faible, est-ce qu'il y a aussi des domaines géographiques, c'est-à-dire des terrains sur lesquels elle est absente, mais peut-être d'ailleurs n'a-t-elle pas vraiment envie de s'y investir. Je pense par exemple au Moyen-Orient. On voit bien que l'attitude de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas d'intervenir. Enfin, un retrait est une forme d'intervention. Ouais. Mais
je réponds vite parce que ma collègue, je crois, avait des choses.
Vous inquiétez pas, elle va avoir la parole. Valérie Nick.
Moi, je ne le reprocherai pas de ne pas toucher au Moyen-Orient, n'y comprenne rien. Et puis, c'est pas tellement décisif pour le rapport des forces. En revanche, comment ça se fait que ça fait 30 ans, 40 ans, je ne sais plus combien, qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'Inde? Quand même, l'Inde, c'est à côté. Les Indiens pensent le plus grand mal des Chinois et ils n'ont rien fait pour ça. Comment ont-ils fait également pour retourner le Vietnam, etc., etc. Et je termine avec le Japon. Le Japon, ce qui est terrible maintenant pour la relation sino-japonaise, c'est qu'ils ont laissé le Japon devenir un problème intérieur en Chine. Maintenant, c'est chic en Chine de penser du mal des Japonais, de penser que les Japonais ont été bien pires qu'à Auschwitz, etc., etc. Comment vous voulez, dans ce cas-là, devenir vraiment costaud face aux Américains ?
Valérie Niquet, j'ai une bonne nouvelle, c'est à vous.
Oui. Le gros problème du G2 aussi, pour en revenir au G2, c'est que s'il existait, il aurait des conséquences très très déstabilisatrices pour notamment la région asiatique, parce que si la Chine peut souhaiter un G2 avec l'autre grande puissance américaine, aucun autre pays asiatique ne le veut et n'est prêt à se laisser écarter, entre guillemets, et à accepter en fait ce leadership chinois en Asie. Donc le résultat du G2, ce serait...
Même avec la promesse d'une zone de libre-échange et un marché en expansion.
Non, dans la mesure où les pays de la région sont très inquiets de la montée en puissance de la Chine et de son caractère, surtout c'est pas tellement la montée en puissance de la Chine, au contraire, pendant assez longtemps, ils étaient assez attiré, comme vous le disiez, par le côté opportunité économique, c'est surtout le caractère perçu comme relativement agressif de cette puissance chinoise et surtout peu normée, n'acceptant pas les normes internationales. C'est aussi ça qu'il faut voir dans la liberté de circulation sur mer, par exemple. Et donc, le résultat, ce serait très certainement une course aux armements en Asie. Le Japon, qui a déjà adopté un certain nombre de mesures qui l'autorisent à élargir son périmètre d'action en matière de défense, pourrait tout à fait se lancer dans l'acquisition de capacités de dissuasion plus autonomes s'il n'avait plus confiance, ce qui d'ailleurs est en toile de fond souvent. En Asie, on vous dit, mais est-ce que les Américains sont vraiment là pour rester, pour nous défendre? Donc si un G2 était vraiment mis en avant, je crois que la première conséquence, ce serait la déstabilisation complète de la zone Asie-Pacifique.
Mais est-ce que certains pays voisins de la Chine, Valérie Niquet, ne pourraient pas être tentés, si ce n'est par cette puissance chinoise, mais par l'idée de se dire, finalement, avec la Chine, on retrouve peut-être certaines valeurs de civilisation asiatique et on se démarquait un petit peu de l'influence occidentale? occidentale. Est-ce que ça ne peut pas jouer?
Oui, mais ça a joué, justement. C'est ça, c'est là où, comme on le disait, le caractère assez irrationnel de la stratégie extérieure de la Chine depuis la fin des années 2000, parce que ça jouait parfaitement bien jusqu'à la fin des années 2000. Vous vous souvenez des valeurs asiatiques partagées, y compris avec la Chine, ça marchait très bien. Et justement, la stratégie plus agressive de la Chine a fait que, en dépit de ces valeurs communes, les pays de la région s'en inquiètent. Et par exemple, un pays comme la Birmanie, qui était très proche du régime chinois, eh bien, a été retourné assez habilement par les États-Unis et les Japonais, qui sont de nouveau très présents. Et quand on va à Pékin aujourd'hui, on vous parle de l'échec birman, parce que justement, la Chine a perdu jusqu'à la Birmanie. Alors évidemment, on a eu l'exemple du Cambodge, qui était... Bon, mais c'est des pays qui ont une influence relativement limitée. Et les pays d'Asie du Sud-Est, y compris des grands pays comme l'Indonésie, sont aujourd'hui très, très méfiants face à la Chine, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Alors que finalement, Alice Ekman, je tire comme conclusion, là aussi provisoire de cette discussion, que on a l'image d'une Chine qui gagne en puissance politique à l'échelle internationale. Or, on se rend compte que c'est plutôt le mouvement inverse qui s'opère au niveau régional. En tout cas, que Pékin a laissé passer une chance ces dernières années d'être véritablement leader dans la région.
Il essaye de l'être progressivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, sa stratégie était contre-productive. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il existe une très forte hiérarchie des priorités de politique étrangère chinoise. C'est-à-dire que pour la Chine, les priorités sont avant tout des priorités de politique intérieure et de développement de l'économie intérieure. Ensuite, il y a des priorités régionales et ensuite, il y a le reste du monde. Et donc, la Chine suit avec un intérêt croissant les crises internationales, mais elle n'est pas encore un acteur majeur sur beaucoup de crises internationales. En tout cas, elle n'est pas au premier plan dans l'intervention, dans la prise de position. Elle se place souvent de manière ambiguë entre les grands acteurs qui se positionnent avant elle.
Donc, quand vous dites qu'elle n'est pas encore, ça veut dire que c'est quelque chose qui est amené à changer. Par exemple, le fait d'avoir de nombreux ressortissants chinois à l'étranger, ça peut amener le pays à devoir mener des interventions, par exemple de sécurisation, quand il y a des coups d'État, par exemple dans certaines zones.
Certains qu'un nouveau défi pour la Chine, c'est la protection de ses investissements économiques grandissant à l'étranger et de ses ressortissants de plus en plus nombreux. Donc il y a les ressortissants, il y a les touristes et il y a également les personnes qui travaillent à l'étranger qui sont très nombreuses, ne serait-ce que sur le continent africain. Donc ça, c'est un nouveau défi pour la Chine. Mais je ne pense pas qu'en tout cas à court et à moyen terme, il va y avoir un réel changement d'approche. Je ne pense pas que cette logique géographique, cette très forte hiérarchie des priorités va être modifiée. Parce que la Chine a du pain sur la planche, si je puis dire, au niveau national et régional. Il y a de nombreuses tensions intérieures au Xinjiang, mais pas seulement. Il y a des tensions, plus récemment, on a parlé des tensions existantes à Hong Kong. Il y a des tensions régionales, et on a parlé des différents territoires en mer de Chine orientale et méridionale. Il y a également des différents frontaliers avec l'Inde, entre autres. Donc la Chine essaye avant tout de gérer ces points de tension. Et donc, les autres points de tension qui sont plus éloignés géographiquement ne sont pas prioritaires pour Pékin encore aujourd'hui, et je ne pense pas qu'ils le seront à court et moyen terme.
Il manque d'un projet global, Jean-Luc Domenech. Finalement, la question qu'on posait en début d'émission, c'est celle-là, c'est-à-dire de quel leadership la Chine veut-elle ?
Voilà. Je crois que c'est vraiment la question fondamentale et c'est ici qu'on touche l'importance, disons, des problèmes intérieurs. C'est un État-parti, disons, et le parti, c'est plutôt un parti-État. Et ça veut dire que c'est un pays où il est difficile de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la puissance, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et c'est par ailleurs un pays où on n'a pas le droit de faire des recherches d'histoire contemporaine, d'histoire assez ancienne. Et donc, quand vous ne pouvez pas réfléchir à votre histoire, comment voulez-vous réfléchir à votre futur ? Et quand vous n'avez pas le droit quand vous ne donnez pas le droit aux étrangers de venir librement, totalement librement, et aux Chinois d'aller totalement librement, de vivre totalement librement à l'étranger, du coup, vous avez du mal à penser pour l'étranger. Et au total, finalement, ce qui manque à la notion chinoise de leadership, c'est pas la puissance, ils vont en avoir de plus en plus, c'est la capacité de penser pour le monde et d'agir pour le monde. Regardez, les Américains ont été très puissants, en partie parce qu'ils étaient forts, mais aussi parce qu'ils pensaient bien ou mal, mais pour le monde.
Mais peut-être que la Chine n'a pas envie de penser pour le monde, mais a d'abord envie, en tout cas le parti-État, de penser à lui-même et à sa pérennité. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas comprendre toute la politique étrangère chinoise aujourd'hui sous ce prisme-là, c'est-à-dire maintenir le régime à tout prix?
Certes, mais pour moi, ça ne veut pas dire un leadership. Cela engendre des difficultés, des problèmes et finalement des échecs.
Donc tant que la puissance chinoise, tant que les dirigeants chinois auront comme objectif principal le maintien du système, Valérie Niquet, ce sera compliqué pour la Chine de jouer un véritable rôle de grande puissance à l'échelle internationale.
Oui, parce qu'effectivement, on l'a dit, je pense que la Chine est encore extrêmement tournée vers elle-même et le régime est tourné vers lui-même, totalement focalisé sur sa propre survie et sa propre existence. Et ce qui est assez fascinant quand on observe la Chine, c'est de voir que les questions qu'on pose aujourd'hui, c'est quel est l'avenir de la Chine, comment redresser en quelque sorte, retrouver la puissance passée avec cette aura d'une sorte de d'âge d'or. C'est les questions que la Chine se posait à la fin du 19e siècle, qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été résolus non plus en 1949 et qu'elles se posent encore aujourd'hui. Donc c'est un régime qui parle beaucoup d'avenir, mais qui est très tourné en fait vers des références qui sont celles du passé.
Mais de quel passé parlez-vous ? Parce que Jean-Luc Nac nous dit, voilà, en Chine, on a du mal justement à réfléchir à l'histoire.
Non, alors je ne parle pas de la réflexion en termes de réflexion autour de l'histoire, mais les interrogations sont celles d'un passé relativement proche, qui est celui du 19e siècle, de la constitution des nations, d'une idée de puissance qui est assez démodée, en quelque sorte, fondée sur la puissance militaire, par exemple. Et on a l'impression, quand on lit ce qui se publie en Chine et quand on va en Chine, que ce que voudrait le régime chinois aujourd'hui, c'est que la Chine, qui a raté le coche au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, pour tout un tas de raisons, eh bien, soit reconnue comme une grande puissance avec les critères qui étaient ceux de la puissance au XIXe siècle, justement. On a beaucoup parlé de l'analogie avec la période qui a précédé la guerre de 14-18. C'est l'idée que la Chine voudrait être reconnue comme une grande puissance du XIXe siècle, finalement, cette idée de puissance navale, de toutes ces choses-là. Alors que c'est l'opposé parfait de l'Europe, qui est souvent méprisée en Chine, où on cherche d'autres valeurs. Qu'est-ce que c'est que la puissance aujourd'hui ? La puissance douce ? La puissance d'influence, celle fondée sur des valeurs communes, eh bien la Chine ne veut pas rentrer dans cette logique-là. Donc tous les discours d'intégration de la puissance chinoise se heurteront au fait que pour le régime chinois aujourd'hui, la puissance, c'est celle qu'avaient les grandes puissances occidentales au XIXe siècle, qu'elle n'a pas eue et qu'elle voudrait obtenir aujourd'hui. Donc il y a une sorte de heurte qui se produit entre les attentes de l'extérieur qui a bougé, qui a évolué, et les attentes d'un régime chinois qui, lui, est toujours tourné vers ce passé-là.
Alice Ekman, il manque aujourd'hui de grands penseurs chinois de la puissance.
Je ne suis pas certaine. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une réflexion stratégique très active aujourd'hui. Bien sûr, elle est guidée et elle est souvent les sujets de recherche viennent de Pékin. Et par exemple, il y a une réflexion donc sur le rêve chinois. Il y a une réflexion sur nouveaux types de relations entre grandes puissances. Donc, c'est vrai qu'on a un certain type de réflexion, mais il y a une multitude de think tanks et d'institutions académiques qui réfléchissent de manière très fouillée sur les nouvelles orientations de politique étrangère chinoise. Et on a aujourd'hui quand même une professionnalisation de certains chercheurs en politique étrangère qui amène à des discussions intéressantes. Mais c'est vrai qu'il y a une différence, un écart de perception manifeste, en partie dû à certaines contraintes de recherche, mais globalement en partie dû à, je pense, à un manque de compréhension du fonctionnement de certaines pratique internationale et aussi un manque de communication entre différents acteurs de la politique étrangère chinoise, entre eux et aussi vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est vrai que là, il y a parfois des incompréhensions manifestes sur la perception de la Chine à l'étranger, sur les intentions réelles de la Chine dans la région. Et aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment réellement ces perceptions vont, enfin ces malentendus ou ces écarts de perception vont être résolus, car ils sont très importants.
Mais finalement, Jean-Luc Domenac, est-ce qu'on n'est pas un petit peu sévère avec la politique étrangère chinoise ? Est-ce que ça n'est pas normal qu'il y ait ces problèmes de perception dans la mesure où la Chine, certes, fut une grande puissance il y a longtemps, mais là émerge depuis quelques années seulement. Il faut aussi le temps d'intégrer tout cela. C'est normal finalement que ce pays se cherche encore.
Écoutez, dans la minute qui reste, simplement je dirais, ça a été pire. Ça peut toujours être pire. Et donc, c'est moins pire qu'avant, certainement. Maintenant, il y a des think tanks, il y a des gens qui vous disent des mots entre deux portes. Vous pouvez toujours dîner avec eux. Mais tout ça, ça ne forme pas la réflexion que Mme Ekman, ou vous-même êtes capable en France, appuyer sur une réflexion intellectuelle authentique, si vous voulez. C'est ça qui manque, une réflexion production intellectuelle authentique et libre.
Bah peut-être qu'un jour, voilà, à l'avenir, on fera le même genre d'émission, mais uniquement avec des chercheurs chinois en politique étrangère. Merci voilà. En tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Valérie Niquet, Alice Ekman, à qui je souhaite une bonne nuit. Et Jean-Luc Domenac, vos commentaires, c'est merci. Comme chaque jour sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. La réécoute, c'est pendant 1000 jours, les téléchargements pendant un an. D'un mot, notre sujet demain. Les associations antiracistes sont-elles encore utiles aux causes qu'elles défendent ? Ce sera notre façon d'évoquer le 30e anniversaire d'SOS Racisme avec son président, notamment Dominique Sopo. Tout de suite, le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.